Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
I got news for you, buddy. We're gonna win the game, I guarantee it.
On est de retour à la zone payante et c'est l'heure des prédictions pour le Super Bowl. Nos trois essais du match aujourd'hui vont être consacrés à cette célébration du ballon ovale. C'est le ballon ovale, hein? Il est en peau de cochon. Et de quelle autre façon on peut le décrire? Peut-être
c'est parfait, la bonne vieille peau de cochon, on sait de quoi qu'on parle.
OK. Aucun doute, Johnny. Bon, ben Jean, on va commencer avec toi. On va commencer avec les Chiefs, si tu veux bien, parce que c'est une deuxième présence au Super Bowl en 2 ans avec un corps arrière qui vient d'avoir 25 ans. Parlons un peu, si vous voulez bien, les gars des Chiefs de Kansas City et s'ils sont équipés pour retrouver le trône qu'ils ont laissé l'an passé.
Ben écoute, il y a plusieurs forces dans cette formation-là, spécialement offensivement. C'est une attaque qui est ultra explosive. Il y a des marchands de vitesse à peu près partout. Je pense à Tyreek Hill, évidemment, Mecole Hardman. Puis t'as un gars comme Travis Kelce, qui, il faut pas l'oublier, a la meilleure saison des liens rapprochés de tous les temps, à peu près. Là. C'est un joueur qui est vraiment spécial, qui est un cauchemar en confrontation un contre un. Parce que tu sais pas exactement qui tu mets dessus. Si tu mets un demi-défensif, ben souvent il est trop physique et trop costaud. Il va s'imposer physiquement. Si tu mets un secondaire, souvent il sera pas assez rapide. Donc c'est vraiment un problème pour les défensives adverses. Les Chiefs sont jamais sortis.
Puis, juste pour faire une parenthèse, tu parles des receveurs de passe, mais ça se peut qu'en plus Sammy Watkins soit là au Super Bowl.
Ouais, exact. C'est un outil de plus. Mais tu sais, est-ce qu'il va faire la différence? Il va faire la différence? Non, pas nécessairement, mais c'est un outil de plus, tout simplement. Je pense que les Chiefs seraient heureux d'avoir Watkins parce que ça demeure un bon receveur avec un bon gabarit, il a des bonnes mains. Je vois pas pourquoi s'il est en santé, il le ferait pas jouer, là, tout simplement. Puis c'est ce que je disais, les Chiefs sont jamais sortis d'un match, on l'a vu. Là, une avance de 10-0 tôt dans le match, c'est rien pour eux. Là. Ils peuvent revenir extrêmement rapidement. Puis ce qui est quand même spécial avec leur attaque, c'est une attaque qui fait pas beaucoup de revirements avec beaucoup de jeux à haut risque. Tu sais, il y a beaucoup de joueurs qui touchent au ballon autre que Mahomes. Tu sais, des jeux renversés, des petites passes au receveur. Tu sais, c'est pas une attaque, je dirais, là. Tu sais, c'est une attaque avec un coefficient de difficulté assez élevé. Puis avec ça, ben eux, ils ont pas de problème. C'est pas une équipe qui fait beaucoup de revirements, donc c'est quand même intéressant de ce côté-là. Défensivement, ben c'est une défensive qui est très solide, qui joue de mieux en mieux, qui s'est améliorée tout au long de la saison, très étanche dans les couvertures.
Je suis content d'entendre ça, il y en a pas beaucoup qui disent ça, Jean.
Ouais, mais moi je trouve que c'est une bonne défensive, celle des Chiefs, elle est vraiment étanche dans les couvertures, ils vont forcer des passes qui demandent une précision chirurgicale. Sont capables de mettre de la pression, mais il y a évidemment des faiblesses. La faiblesse principale des Chiefs, pour moi, c'est la défensive contre le sol, même si ça va quand même bien présentement en série. Je pense quand même qu'ils peuvent être exploités de ce côté-là. Puis offensivement, ben même avant la blessure à Eric Fisher, c'est une ligne à l'attaque, je pense que qui peut se faire brasser par moment. C'est pas une ligne à l'attaque ultra physique. Puis je pense que c'est un petit peu le point faible de cette formation-là. Ça et la défensive contre le sol. En dehors de ça, c'est difficile en tabarnouche de trouver des faiblesses dans cette, je dirais, cette attaque ou cette formation-là. C'est tout repose. Ils ont quand même le meilleur joueur de la NFL. C'est aussi simple que ça. Patrick Mahomes est spécial. Il crée tellement de problèmes parce que, en tout cas, tu peux pas avoir un plan de match unidimensionnel quand tu vas contre Patrick Mahomes et les Chiefs. Si tu dis on va jouer de la zone, tu sais, on va donner du terrain, puis à un moment donné, on cassera pas, ça arrivera pas. Patrick Mahomes va te dépecer. Si tu prends trop de chance puis tu blitzes à tout moment, là aussi, ils vont te faire mal, soit sur des jeux renversés avec les receveurs parce qu'ils ont tellement de vitesse, vont prendre ta défensive à contre-courant. Et évidemment, tu as des problèmes en un contre un avec Tyreek Hill, qui était arrivé à la première rencontre face aux Bucks. Tyreek Hill s'était amusé comme un petit fou. Donc, et j'ai parlé de Kelce, qui est vraiment un problème pour la défensive adverse. Donc, c'est vraiment un casse-tête des affrontés défensives.
Steph, comment tu vois les Chiefs?
Ben, c'est ça. Le seul gros point d'interrogation, comme Jean le disait, c'est la ligne à l'attaque. Tu sais, y a eu le départ l'an passé du centre Mitch Morse. Cette année, Laurent Duvernay-Tardif qui opte pour la clause échappatoire, donc joue pas. Mitchell Schwartz, le bloqueur à droite, qui est hors de combat depuis plusieurs semaines déjà. Puis Andy Reid disait cette semaine qu'il est très peu optimiste à l'idée de le voir revenir au jeu pour le Super Bowl. Il y a un mince espoir, mais c'est plus que mince, là. Puis t'as Eric Fisher, comme Jean le disait, qui s'est blessé au dernier match. Là, ça fait que tout le monde n'est pas dans la bonne chaise. On joue à chaise musicale, mais tout le monde est assis tout croche entre deux chaises. Quand tu joues contre des gars comme Jason Pierre-Paul puis Shaq Barrett, ça peut faire très mal tantôt, là. Ça, c'est vraiment inquiétant du côté des Chiefs. J'ai hâte de voir aussi au niveau du champ arrière, est-ce que Clyde Edwards-Helaire est revenu là en finale de conférence contre les Bills, mais il a joué un rôle très, très discret. On ne l'a pas utilisé beaucoup. Est-ce que la semaine de repos additionnelle va faire en sorte qu'il est de retour à 100%? Parce qu'il a été très exploité en début de saison. Je me rappelle le tout premier match. Il avait été extraordinaire, là, au-dessus de 150 verges, quelque chose comme ça, au sol. Plus tranquille par la suite, là. Puis Clyde Edwards-Helaire, il a prouvé dans quelques matchs cette saison, entre autres contre Buffalo à la semaine 6, qu'il pouvait courir avec le ballon puis devenir une arme redoutable pour les Chiefs. Mais j'ai trouvé que souvent, on n'a pas nécessairement tourné notre attention de son côté. Donc ça, j'ai hâte de voir là, si ça va être une force ou une faiblesse du côté des Chiefs, parce que ça n'a pas été clair cette année de match en match. Jean parlait de la couverture. Ce qui est particulier avec les demi-défensifs des Chiefs, c'est qu'il n'y a pas nécessairement, à part Tyrann Mathieu, de super vedettes dans cette tertiaire-là. T'sais, Mathieu, oui, est partout sur le terrain. On l'amène près de la boîte, on l'éloigne en couverture de passe, il peut être partout. Mais t'as des gars aussi très polyvalents à côté
Steph,
de lui.
Steph, j'ai vu une statistique cette semaine. Ouais. Tyrann Mathieu, il s'est aligné partout sur le terrain, oui, officiellement, même debout à la position de ce que souvent on appelle les noses.
Les edges.
Mais aussi à l'intérieur.
C'est hallucinant.
C'est hallucinant. Là. C'est vraiment un couteau suisse.
Ouais, c'est fantastique. Puis sans être aussi polyvalent, ben les gars qui l'entourent, je pense à un Daniel Sorensen, je pense à un Lajarius Sneed, recrue qui a été choisi en quatrième ronde, qui connaît une très, très bonne saison recrue. Lui, on peut l'aligner aussi pour couvrir l'ailier inséré. On peut le mettre à l'extérieur. On l'emploie aussi comme maraudeur à l'occasion. Il est capable aussi de jouer proche de la boîte. C'est des gars, bref, qui peuvent jouer un peu partout sur le terrain puis qui permettent au coordonnateur défensif, Steve Spagnuolo, de masquer un peu ses couvertures puis ses fronts. Ça peut être très déterminant dans un match comme Tom Brady. Vous allez me dire, ouais, mais Tom Brady, il n'y a rien qu'il n'a pas vu dans sa carrière. Ça fait 60 ans qu'il joue et qu'il dépèse toutes les sortes de défensives imaginables. Oui, mais si tu peux le confondre, ça va grandement aider ta cause, là. Puis la clé là, chez les Chiefs, ça a souvent été le cas dans les matchs contre Tom Brady. Si on est capable d'appliquer la pression à 4 joueurs contre Tom Brady, c'est souvent là qu'on peut se permettre d'être plus agressif en couverture puis de réaliser des revirements, là. Est-ce que les Chiefs peuvent le faire avec un Frank Clark, un Chris Jones? Ils ont des atouts. Frank Clark, qui semble allumer le moteur au bon moment, on l'a très peu vu cette saison, là, très, très timide. Puis en série, il a vraiment répondu plus présent à l'appel. Là, je pense qu'il y a eu 2 sacks contre les Bills en finale de conférence. Donc ça va être 2 joueurs à surveiller parce que il y a 2 grands joueurs en défensive chez les Chiefs, Chris Jones et Tyrann Mathieu. Si ces deux-là fonctionnent à plein régime, ça va inspirer tout le monde autour. Donc, c'est la chose à surveiller. Sinon, ben écoute, comme Jean le mentionnait, la défensive contre le sol fait peur, mais les Bucks, c'est pas nécessairement une équipe qui... oui, elle attaque avec le sol, mais c'est pas une équipe qui s'accroche longtemps au jeu au sol. Tu sais, on le voit souvent, une course sur un premier essai, après on se tourne vite vers la passe. Donc, Je pense pas que c'est une équipe qui forcément peut menacer là, vraiment dangereusement les Chiefs à ce niveau-là.
Les entraîneurs, vous autres, est-ce que ça va être un enjeu dans ce match-là? Est-ce que parce que les Chiefs sont quand même sur papier bien coachés avec autant en défensive qu'Andy Reid à l'attaque, celui qui appelle les jeux?
Je parlais de Spagnuolo, juste un point sur ça, le coordonnateur défensif des Chiefs. Il faut savoir qu'en carrière, il y a quand même 3 victoires, 2 défaites contre Tom Brady. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent en dire autant. Là. Brady a pas mal figuré toutes les défensives à travers les âges. Puis Spagnuolo a eu le don d'être capable d'amener ses joueurs à appliquer la pression là, sur Brady. Il a été victime de 13 sacs dans ces 5 matchs-là. Donc ça, pour moi, c'est signe qu'il connaît bien comment attaquer Brady. Puis il y a eu le fameux Super Bowl de 2007 là, dont on parle encore aujourd'hui. C'était lui le coordonnateur des Giants, mais il y a eu d'autres matchs depuis là où il a répété la recette à succès. Donc ça, c'était surveillé là, du côté des entraîneurs.
OK, maintenant, on y va avec notre deuxième essai, les gars. On passe à Tampa Bay, l'équipe hôtesse ou l'équipe hôte du Super Bowl, curieusement, cette année, qui auront la chance de jouer devant leurs partisans. Ou ce qu'il y en aura de partisans. Analysons cette équipe. On va commencer par Steph. Tiens, on commence. Est-ce qu'on commence par Tom Brady ou on a déjà tout dit sur lui?
Ouais, ben pas mal. Tout a été dit, mais il faut parler des gens qui l'entourent quand même, parce que les Buccaneers, c'est beaucoup plus que Tom Brady à l'attaque. C'est une offensive qui est carrément monstrueuse. Là. C'est pas pour rien qu'il a choisi d'aller là, Brady. Des receveurs d'une grande qualité. Là. T'sais, on parle de Mike Evans, Chris Godwin. Tantôt, tu parlais de Brown. On ne sait pas encore s'il va être en uniforme, blessé au genou. Pour l'instant, je pense qu'il ne s'entraîne toujours pas au moment où on s'enregistre, mais c'est un cas, là, disons, 50-50. Mais après ça, tu as Scotty Miller, tu as Tyler Johnson. Il y a des armes, ça finit plus. Les ailiers rapprochés sont vraiment spectaculaires aussi. Là. T'sais, Rob Gronkowski a ralenti, mais il est toujours capable de bloquer à un haut niveau. Cameron Brate qui s'est bien développé là, dans cette attaque-là. Puis, il y a une bonne ligne offensive autour de Tom Brady. Ça, c'est vraiment un point important. Je pense que ça va être un élément clé dans la rencontre. Il a été bien protégé cette saison, mais je le mentionnais, contre les défensives de Spagnuolo dans sa carrière, ça a souvent été un problème. Donc ça va être un enjeu à surveiller. Puis défensivement, mais à les Bucks, c'est simple, là, tu peux pas courir contre eux. C'est une muraille. C'est très difficile de les percer au sol avec un gros plaqueur format géant, là, un 345 livres. Vita Vea, il y a rien qui passe dans le milieu. Puis des secondaires exceptionnels. Là, vraiment, Devin White puis Lavonte David. Je suis pas sûr à travers toute la ligue qu'il y a un tandem de secondaires à l'intérieur qui est aussi athlétique que ces deux-là. C'est vraiment des joueurs qui sont agressifs vers le ballon. Ils vont se faire prendre les culottes à terre à tout bout de champ. Là. C'est dans la nature agressive de leur jeu. Mais ils sont capables de générer des revirements. White, par le passé, là, qui a été une machine à ce niveau-là. Puis ça, c'est la clé. Tu regardes les Buccaneers, ils ont marqué des points. Je pense qu'ils ont compté 41 points dans les présentes séries seulement. Là. Je parle même pas de la saison. 41 points dans les séries à la suite de revirements provoqués par la défensive. C'est majeur. Donc, honnêtement, là, ça, c'est le gros point dans ce match-là. Puis heureusement pour les Chiefs, comme le mentionnait Johnny, sont très avares côté revirement. Donc, c'est un élément là, très fort qui joue pour les Bucks. Mais les Chiefs sont capables quand même de se défendre de ce côté-là.
De mon côté, ben écoute, moi je pense qu'ils ont probablement la meilleure boîte ou dans le top 3 des meilleures boîtes défensives de la NFL. Puis j'aime comment la défensive est bâtie. C'est une défensive qui est bâtie sur la vitesse. Ils vont faire des erreurs, spécialement dans la tertiaire par moment, mais c'est une défensive qui fly à la balle, comme on dit. Ils ont une poursuite incroyable. Il y a beaucoup de choses qu'ils réparent par le fait qu'ils sont agressifs puis qu'ils s'en vont 11 au ballon à chaque jeu. Ils ont des joueurs, comme Steph l'a mentionné, là, dominants défensivement. Écoute, Devin White, c'est un mangeur d'enfants. Quand il joue à LSU, ben, ça n'a rien changé dans la NFL. C'est exactement la même chose. Shaq Barrett, Jason Pierre-Paul, on l'a vu dans le match contre les Packers. Ils peuvent se sauver avec la rencontre. puis être absolument dominant. Puis c'est sûr qu'avec la situation de la ligne à l'attaque des Chiefs, c'est une des confrontations qu'il faudra surveiller de très, très près, parce qu'il n'y a rien qui est aussi tannant que deux joueurs de ligne sur les edges qui mettent de la pression constante. Souvent, tu peux faire avec. Deux, ça devient très, très difficile. Et là, ça devient vraiment compliquer le casse-tête du côté des Chiefs. Ils ont des faiblesses, par contre. La tertiaire, moi, je pense que c'est un peu ce qui est exploitable, et fort heureusement pour les Chiefs, ben, ils ont une attaque aérienne dominante. Ils n'ont pas de shutdown corner, eux non plus. Tu sais, un gars que tu peux me dire, regarde, on va le mettre contre Tyreek Hill, un contre un, puis il n'y aura pas de problème. Ça, ils n'ont pas ça. Donc, l'aspect de jouer beaucoup homme à homme, puis mettre de la pression en blitzant, ça se peut que tu te fasses brûler. Puis par moment, lors de la première rencontre, c'est ça qui est arrivé. Ils ont pris des chances, puis à chaque fois, Hill était là pour dire, écoute, il n'y a pas de marchand de vitesse de votre bord, là. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut surveiller de près également. Mais c'est une attaque qui est différente aussi de celle des Chiefs. Moi, je trouve qu'elle est moins explosive, mais qu'elle contrôle un peu mieux le ballon, puis elle est mieux équilibrée. J'aime l'attaque au sol. Ils ont des gars pas fins aussi sur la ligne d'attaque. Ryan Jensen, c'est un gros pas fin, le joueur de centre des box. Il joue avec une solide attitude. Puis je pense que c'est répandu sur la ligne d'attaque au complet de Tampa Bay. C'est toujours quand il y a quelqu'un qui est vraiment agressif comme ça, souvent c'est quelque chose qui est contagieux. Puis je trouve que moi j'aime beaucoup l'attitude des box sur la ligne d'attaque. Ça fait en sorte que ça va garder aussi les joueurs des Chiefs sur le qui-vive. Si tu sais pas s'ils vont courir ou passer, ben ça devient plus difficile de mettre de la pression sur Brady. À ce moment-là, moi, je pense que dans le match, la tacle au sol des Bucks est vraiment importante. Un, pour contrôler l'horloge, puis éviter évidemment de mettre trop souvent l'attaque des Chiefs sur le terrain, et un peu pour contrôler ce que les Chiefs font très bien en défensive, c'est-à-dire mettre de la pression sur le carrière.
OK, troisième essai, les gars, on y est. Après toutes les spéculations, après les dernières semaines, début de l'année, tout le monde y est allé de ses prédictions. Vous l'avez choisi en début de saison, l'équipe des Chiefs qui serait au Super Bowl. Est-ce que vous nous arrivez avec une surprise aujourd'hui dans le troisième essai, à savoir qui gagnera le Super Bowl 55?
Ah, c'est pas le moment de lâcher, mon Jean-Nic. Moi, je vais continuer, je vais m'entêter, là. Je sais que miser contre Tom Brady en série, c'est pas l'idéal. Je l'ai fait la semaine passée, ça m'est revenu d'en face. Moi, j'étais convaincu que les Packers allaient éliminer les Bucks. C'est pas arrivé. Mais je continue de penser que les Chiefs ont trop d'armes, tout simplement. Tu sais, on parlait, Jean vient de parler à l'instant de la tertiaire qui peut très bien performer, mais qui est parfois douteuse aussi des box. Ça a été très inégal, puis il y a une raison là pour ça. C'est de bons jeunes joueurs. Mais tu regardes, là, qu'on parle de Carlton Davis, D'Antoine Winfield, Jordan Whitehead, Jamil Dean, Sean Murphy Bunting, qu'est-ce qu'ils ont tous en commun, ces demi-défensifs-là? Il n'y en a pas un qui a été repêché avant 2018. Donc, c'est tous des jeunes joueurs qui sont, pour certains d'entre eux, en ascension. Je pense à Winfield, je pense à Carlton Davis, entre autres. Murphy Bunting, qui est très opportuniste, qui a 3 interceptions dans les présentes séries. Mais le manque d'expérience pourrait faire très mal contre une attaque aussi explosive et rapide que celle des Chiefs. J'ai l'impression que c'est là que ça va jouer. Puis si tu joues homme à homme, mur à mur, non seulement tu risques de perdre les confrontations par la vitesse, mais il y a un dénommé Patrick Mahomes qui va voir les demi-défensifs dos au jeu, puis qui va se faire un plaisir de gambader dans les bris. Là, ça, c'est l'autre affaire qui peut arriver, dont on n'a pas tenu compte jusqu'à maintenant. Il y a tout simplement trop de vitesse, trop d'explosion, trop de dynamisme au sein de l'attaque des Chiefs. Puis je continue de croire que même la défensive des Chiefs est sous-estimée, qu'elle peut appliquer la pression, déranger Tom Brady. De mon côté, j'y vais avec une victoire des Chiefs, un match quand même à haut pointage, un genre de 34-30. Ça va être serré parce que du côté des Buccaneers, c'est quand même une attaque idéale pour attaquer les Chiefs, au sens où l'entraîneur-chef Bruce Arians, dont on a peu parlé jusqu'à maintenant, un gars qui adore le risque. Lui, il ira pas là pour ne pas perdre. Il va aller là pour gagner. C'est un gars, son fameux slogan, lui, « No risk it, no biscuit », j'adore parce qu'il l'applique. Combien de fois on voit les box sur un troisième essai et deux verges à gagner, tenter la longue passe puis réussir? Ils prennent les défensives comme ça à contre-courant, à répétition. Une attaque agressive contre les Chiefs, ça va permettre aux box de rester dans le match là, vraiment tout le long. Puis je pense que ça va se jouer ce duel-là jusqu'à la toute fin, mais je conserve ma prédiction de début de saison. Donc, les Chiefs, une victoire serrée là, par moins d'un toucher.
Johnny?
Écoute, les Chiefs, ce qui est plaisant, les gars, du Super Bowl cette année, c'est quand Tom Brady joue au Super Bowl, 6 des 9 Super Bowls qui a participé se sont décidés par 4 points ou moins. Les 9 ont été serrés. Le moins serré, c'est celui d'il y a 2 ans entre les Rams et les Pats. Puis ça avait terminé quand même par 10 points. Puis, tu sais, les Rams avaient été quand même dans le match.
Donc, oui, ça s'était décidé pareil au quatrième quart.
Exact, exact. Donc, je pense qu'on peut déjà affirmer que ça risque d'être un match serré qui va jouer à la toute fin. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je vais y aller, les gars, contre mon impulsion, là, je dirais, en temps normal. Moi, je choisis souvent l'équipe qui a les meilleurs fronts dans ces matchs importants-là. Et pour moi, ce sont les Bucs qui sont les meilleurs, autant sur leur ligne en attaque que sur la ligne défensive. Et je vais aller contre cet instinct-là et je vais choisir quand même les Chiefs parce que je pense que Patrick Mahomes est tout simplement un joueur tellement spécial. Je pense qu'il est en mesure de combler cette ligne à l'attaque-là qui est un peu amochée. Je pense qu'il est tellement bon qu'il va être en mesure d'étirer quelques jeux. Et avec son bras ultra puissant, il va être en mesure de trouver des receveurs. Si les Bucs veulent jouer un peu trop de défensive de zone, c'est aussi ce bras canon-là qui fait que c'est très difficile contre les Chiefs. Souvent dans les zones intermédiaires, le ballon arrive tellement rapidement que les demi-défensifs n'ont pas le temps d'aller au ballon pour faire un jeu. Donc, je choisis Patrick Mahomes qui va justifier son salaire, messieurs, parce qu'il a quand même le plus gros contrat de l'histoire du sport professionnel. Puis, je vais choisir le jeune dauphin qui va battre le meilleur carrière de tous les temps en Tom Brady. Et j'ai les Chiefs 31-27 dans un match plutôt offensif. L'autre dernier point, Jean-Nic, si Patrick Mahomes, je sais que tu vas pas dans ce match-là en ayant ça dans la tête, mais si Patrick Mahomes veut devenir le meilleur carrière de tous les temps ou le meilleur joueur de la NFL de tous les temps,
ben, faut que je batte Tom Brady.
Il n'y a pas le choix, là. Tu peux pas perdre ton Tom Brady âgé de 43 ans, là.
Oui, mais il y a encore 4-5 ans pour le battre, par exemple.
Oui, mais il n'y a pas le droit de perdre tout simplement contre Tom Brady âgé. C'est aussi simple que ça. S'il veut être dans cette discussion-là, ben, il n'y a pas le choix de gagner cette rencontre-là. Même si c'est un jeu collectif, c'est sûr que les gens vont parler beaucoup de Patrick Mahomes de façon individuelle. Donc, j'ai les Chiefs qui l'emportent 31-27 avec Patrick Mahomes qui fait la différence parce que c'est le meilleur joueur de la NFL.
Bon, imaginez les gars, hein, imaginez 2 secondes que dans 5 ans, on est sur le même podcast, la zone payante, puis qu'on parle du 3e affrontement au Super Bowl entre Brady et Mahomes. Rendu à ce stade-là, moi, je me dis que c'est pas impossible, on sait pas.
Bon, ben moi, en tout cas, je vais faire un peu de pouce là-dessus parce que je sais que tout le monde regarde ce duel-là, là, Brady et Mahomes, là, 43 ans contre 25 ans, l'expérience contre la jeunesse, mais Jean l'a dit, là, ça va se jouer dans les tranchées, là, ce match-là. Je pense que la tranchée des Chiefs est trop faible à l'attaque. Puis, oui, Patrick Mahomes, on voit ses stats quand il doit sortir de la pochette ou quand il roule à droite. C'est vrai là, qu'il y a des très bonnes stats, mais à un moment donné, il pourra pas là, tout faire. Je sais qu'il est bon, là, je sais qu'il a un bon bras. Mais il est moins mobile qu'en début de saison. Son pied n'est pas à 100%. Je comprends qu'on a vu dans le dernier match que ça l'avait pas trop embêté, mais on voit qu'il court moins, il prend moins une décision d'aller chercher le premier jeu quand il est dans le trouble. Jason Pierre-Paul, il a joué tout un match il y a 2 semaines. Je m'attends autant de lui cette semaine. Est-ce qu'ils vont seulement garder la pression à 4? Ils vont peut-être utiliser la défensive de Spagnuolo pour...
S'ils sont capables de mettre la pression à 4, ils vont faire seulement de la pression à 4. Ça,
bon,
c'est
sûr. Ben alors, moi, je pense que ça va être le cas. Anthony McKinsou, on en parlait, un des gars qui était identifié comme le meilleur joueur en défensive à une certaine époque, il n'y a pas 100 ans. Il est encore excellent. Il fait juste son rôle. Il est à peine doublé. C'est pas son rôle de mettre de la pression sur le corps arrière, mais quand même, là, il ajoute de la pression sur la ligne. Je pense que la défensive, la ligne offensive des Chiefs, qui est mêlée comme un jeu de cartes avec le départ de Fisher, va en avoir plein les bras. Puis j'ai regardé, les Bucks qui ont quasiment pas de blessés. Ils ont presque pas eu de blessés pendant la saison.
On est en santé.
Je comprends qu'ils ont une semaine de plus, les Chiefs, pour se remettre, mais on voit qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui risquent de faire un retour au jeu.
En fait, côté bilan de santé pour les Bucks, là, il y a Antonio Brown, on en parlait, mais les deux maraudeurs partant quand même, Antoine Winfield puis Jordan Whitehead, qui sont des cas incertains. J'ai l'impression qu'ils vont jouer là, parce que c'est le Super Bowl, mais juste pour le mentionner quand même, c'est pas des joueurs qui risquent d'être à 100%.
Puis la dernière chose aussi, peut-être que je suis dans ma tête, là, mais on dirait que la pression est sur les Chiefs cette année. C'est ça, son favori au preneur au livre, son champion en titre. Puis on dirait que c'est ça que je sens qu'à la fin de match, ça va encore faire une différence. Il risque d'avoir ça va être un match serré, vous l'avez dit. Puis je pense qu'à la fin du match, il va y avoir un Tom Brady qui va ressortir avec l'expérience, ou en tout cas qui va donner une confiance à son équipe, qui vont jouer avec plus de confiance, puis qui vont forcer les Chiefs à faire une erreur. Victoire de Tampa Bay. Par un touché, 34-27, en fin de match.
Fait que là, c'est un septième Super Bowl pour Tom Brady.
Écoute, comme partisan des Dolphins, tu sais à quel point ça me brise le cœur d'être obligé d'admettre ça. Mais je suis obligé. Puis vous le savez, là, depuis le début, je pense que Tampa Bay va se rendre jusqu'à la fin. Je vois encore Tom Brady lever la tête, choisir son receveur. Ils ont des options à l'attaque. Je pense que les deux défensives vont avoir du fil à retordre. Là. Remarque, là, dans ce match-là, il va avoir beaucoup de points, mais qu'à la fin, Tom Brady n'aura pas de difficulté à traverser le terrain s'il lui manque un toucher. Des Tampa Bay Buccaneers.
Tout ce que je peux mentionner peut-être de plus sur la ligne à l'attaque qui est un peu amochée du côté là, des Chiefs, c'est qu'ils n'ont pas besoin de jouer 3 ou 4 rencontres comme ça. T'sais, ils ont juste besoin de jouer un bon match. Ça, au niveau de la motivation, je suis certain que les réservistes vont répondre présent. Est-ce qu'ils vont être en mesure de le faire? Ça, c'est une autre question.
Je te corrigerais une seconde. Je te dirais, ils n'ont pas besoin de jouer, tu as raison, 3-4 matchs, mais ils ont besoin de jouer 4 quarts.
Oui, ça, c'est sûr. Mais ils ont eu une semaine additionnelle pour se préparer. Ça aussi, faut pas non plus. Là, je pense que dans le cas des Chiefs, ça va les aider justement... essayer de trouver la bonne formule pour garder Patrick Mahomes intact dans cette rencontre-là. Mais c'est sûr et certain qu'il va avoir de la pression à un certain moment donné. C'est juste pas possible qu'il soit en mesure, je pense, de protéger Mahomes de façon parfaite.
Oui, peut-être de façon égoïste aussi, avoir le Super Bowl pour une deuxième fois au Québec en 2 ans avec Antonio Clark pourrait ramener le trophée.
C'est la bonne nouvelle si les Bucks l'emportent, absolument.
Effectivement. Puis juste dernier point sur la ligne des Chiefs, faut pas oublier une chose non plus, messieurs, c'est que l'an passé, la ligne avait connu de grosses difficultés au Super Bowl contre les Niners. Les partants étaient pourtant en uniforme, puis les Niners avaient un front, à mon avis, encore plus redoutable que celui des Bucks. Puis ça avait bien été quand même pour les Chiefs, donc... Avec Mahomes, je pense que c'est le corps arrière idéal pour affronter une situation comme celle-là. T'sais, il n'est pas invincible, mais ce qu'il a démontré au Super Bowl l'an passé avec une ligne à l'attaque qui n'a pas connu son meilleur match, loin de là, contre les Nick Bosa, Forrest Buckner et compagnie, là, c'était un gros, gros front, celui des Niners, puis ça a quand même très bien été.
OK, on verra. On fera un bilan de ça, les gars, la semaine prochaine après le Super Bowl.
Une chose est certaine, Jean-Nic, c'est qu'on va être déçu si on n'a pas un match serré, parce que sur papier, c'est un des meilleurs affrontements d'avant-match que j'ai vu. Tu sais, un jeune dauphin contre le vieux vétéran, Mahomes versus Brady. Il y a des stars partout en attaque et en défensive. on s'attend, moi je m'attends à du gros, 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 gros football. Je vais être extrêmement déçu si on n'a pas un bon match.
OK, ben dans un bon match, des fois, il arrive des choses qu'on n'avait pas prévues, mais nous, à la zone payante, on va essayer quand même de les prévoir. Est-ce que vous avez des ce qu'on appelle là, des bold predictions, là, des prédictions audacieuses, là, quelque chose là à Vegas, là, que si on gage 10 piastres là-dessus, on est riche après le Super Bowl. Qu'est-ce qui pourrait arriver pendant le Super Bowl qui serait surprenant et puis que personne n'a vu venir? Mais à part vous deux, évidemment.
Je vais me lancer.
Ah oui, donc?
Il n'y aura aucun revirement dans la rencontre. Aucun.
Oh. Oh.
Il n'y aura pas d'interception. Il n'y aura pas d'échappée. Les deux attaques vont être très clean. Ils vont jouer de propre. Ils vont faire attention au ballon. Ils vont se faire arrêter par moment, mais il y aura pas de revirement. Je vais juste me donner une porte de sortie. Les quatrièmes essais ne comptent pas. Donc, si une équipe va sur un quatrième essai, je le compterai pas comme un revirement, comme c'est le cas normalement. Mais pas d'interception puis pas d'échappée.
C'est bon. OK, Steph, on va y donc avec une bold prediction.
Écoute, moi, j'allais à l'inverse de Jean. Je me dis que Tom Brady, puisque les Bucs vont être très agressifs, va accumuler au-dessus de 400 verges, mais va lancer au moins deux interceptions.
Ouh! C'est
ouais, je pense que ça va être ça. Ils sont très agressifs, mais ça ouvre la voie aux erreurs aussi. Là. Puis, tu sais, sur des longues bombes, des fois, là, c'est 50-50, c'est le style des Bucs. Puis une autre titre comme ça, là, une bold prediction, je reviens souvent avec le terme agressif parce qu'autant les Chiefs que les Bucs, c'est leur style à l'attaque. Le premier touché dans ce match-là va se marquer en moins de temps que va avoir duré l'hymne national, tiens.
Ouh, plus vite que le toucher contre les Denver Broncos avec Manning, que le ballon il passe par-dessus la tête?
Ça avait été assez vite, merci, ça aussi, là, quand même. Mais ça va être dans ces eaux-là.
Parfait. Très bon.
Je vais y aller avec une dernière de mon côté également. Travis Kelce va avoir plus de 150 verges de gain par la passe.
Pas de misère à le croire, ça.
Ouais, est-ce que c'est vraiment une bold prediction, ça?
Ben, OK, je vais t'en donner une autre. Si les Bucs gagnent le Super Bowl, c'est Leonard Fournette qui va être le MVP.
Ouh, ça c'est bon, ça c'est bon. OK. OK, merci Jean, merci Steph. Fait que bon match à vous deux. On va faire le bilan de tout ça, comme je disais tout à l'heure, la semaine prochaine. On va avoir un autre épisode de la zone payante, alors on vous invite à être là. Après la pause, ben on va. Il y a d'autres histoires qui se passent dans la NFL quand même. L'actualité continue. On va traiter de ça dans notre quatrième essai. Restez là.